VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 13 juin 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Grève hier à Port-Gentil, au Gabon.
À Berlin, poursuite de la conférence Compact with Africa, en présence de plusieurs dirigeants africains.
Ici aux États-Unis, la suspension du décret migratoire révisé du président Donald Trump, confirmé par une autre cour fédérale.
Et à Washington, des positions très attendues aujourd'hui du ministre de la Justice Jeff Sessions devant la commission électorale du renseignement.
En Russie, plus de 1500 partisans de l'opposant Alexei Navalny ont été interpellés hier lors de manifestations anticorruption.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Un vaste mouvement de grève a touché hier Port-Gentil, capitale économique du Gabon, pays pétrolier frappé par de nombreux mouvements sociaux depuis la chute des prix du baril en 2014. Tatiana Mosso fait le point.
Selon les syndicalistes, la mobilisation a été suivie par 65% de leurs adhérents. La circulation automobile en ville a été fortement perturbée jusqu'en milieu d'après-midi, de nombreux taxis ayant participé à la grève. Un piquet de grève à la Bourse du Travail a rassemblé 3000 personnes selon les organisateurs et 1000 selon un journaliste qui a vu la police intervenir. Le ministre du Pétrole, Pascal Wani Ambouroué, présent lundi à Port-Gentil, a promis d'être leur interprète auprès du gouvernement, a indiqué une source proche du ministre. Les grèves n'épargnent pas la capitale, Libreville, où plusieurs secteurs sont affectés, dont la santé, les transports et les ramassages d'ordures. Une grève générale organisée tous les lundis pour protester contre la vie chère et les violations des droits des travailleurs a été lancée par la Confédération syndicale dynamique unitaire. Par ailleurs, des arriérés de paiement pénalisent des entreprises comme la compagnie aérienne Afrique Aviation, qui a cessé depuis quelques jours ses vols intérieurs et vers Sao Tomé. « Nous ne sommes pas payés depuis 3 mois », a déclaré en fin de semaine dernière une salariée dans l'agence vide de Libreville.
À Berlin, la conférence Compact with Africa se poursuit pour une seconde journée consécutive en prélude au prochain sommet G20 à Hambourg. La chancelière allemande Angela Merkel appelle à investir en Afrique pour limiter l'immigration clandestine vers l'Europe. Le point avec Morgane Guériec.
S'il y a trop de désespoir en Afrique, alors évidemment, des jeunes vont se dire qu'ils vont aller chercher une nouvelle vie ailleurs, a déclaré Angela Merkel, présidente du G20. L'initiative Compact with Africa prône un partenariat pour stimuler l'investissement privé sur le continent. Pour le Guinéen Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, c'est l'opportunité de mieux identifier les mesures adéquates, surmonter les obstacles à une croissance économique durable et de créer des flux d'investissement plus importants et plus stables. L'Allemagne a annoncé 300 millions d'euros d'appui pour rendre les pays africains plus attrayants à l'investissement plutôt qu'un plan d'aide. Le président rwandais Paul Kagame a estimé que l'aide traditionnelle ne suffirait jamais pour un développement durable et que le secteur privé était absolument essentiel. Mamadou Issoufou, président du Niger, ajoute que l'Afrique a besoin de l'Europe qui a à son tour besoin de l'Afrique. Il est donc normal que les deux continents investissent dans un avenir commun.
Au Maroc, une délégation gouvernementale s'est rendue hier à Al-Hoceima, épicentre de la contestation populaire qui secoue depuis plusieurs mois la région septentrionale du Rif. Des détails avec Yacouba Ouedraogo.
La délégation ministérielle a tenu avec des responsables de la région une réunion de travail consacrée à la problématique de l'eau. Il a aussi été question de la construction d'un barrage et d'une usine de dessalement. C'est la seconde visite de ce genre en moins d'un mois vers la ville frondeuse. Pour répondre aux revendications exprimées dans la rue, l'État a relancé ou accéléré plusieurs projets pour relancer l'économie locale. Face à la révolte populaire dans la région du Rif, Rabat mène une politique de la carotte et du bâton. Depuis le 26 mai, la police a procédé à plus d'une centaine d'arrestations, dont Nasser Zefzafi, leader de la contestation. 86 personnes ont été présentées à la justice. Près de 30 manifestants ont été emprisonnés et accusés d'atteinte à la sécurité intérieure. Depuis, la ville d'Al-Hoceima et la localité voisine d'Imzouren sont en effervescence avec des manifestations quotidiennes pour exiger la libération de tous les prisonniers.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une autre cour fédérale a confirmé la suspension du décret migratoire révisé du président Donald Trump, décret qui interdisait l'entrée au pays de ressortissants de 6 nations essentiellement musulmanes. La cour d'appel de San Francisco a décidé hier à l'unanimité que le président avait outrepassé ses pouvoirs. Bien que la loi donne au chef de l'exécutif de larges pouvoirs dans les domaines de l'immigration et de la sécurité nationale, explique la Cour, l'immigration, même pour le président, n'est pas un spectacle joué par une seule personne.
Ici à Washington, déposition aujourd'hui de Jeff Sessions, ministre américain de la Justice, devant la commission du renseignement du Sénat. Il va répondre aux questions des sénateurs sur ses rencontres avec l'ambassadeur russe aux États-Unis. Claire Morin-Gibourg.
L'audition publique aura lieu à partir de 18h30, temps universel, devant la commission du renseignement qui mène ses propres enquêtes sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle. Jeff Sessions n'avait pas dit, lors de son audition de confirmation au Sénat en janvier, qu'il avait rencontré deux fois en 2016 Sergueï Kislyak, ambassadeur russe à Washington. Après la révélation de ses rencontres en mars, Jeff Sessions s'était récusé de l'enquête sur l'interférence russe menée par le FBI, qui est sous son autorité. Jeff Sessions a signé en mai une lettre recommandant au président Trump de limoger James Comey, à l'époque patron de la police fédérale. Monsieur Comey est déjà passé devant la même commission sénatoriale et Jeff Sessions, ancien sénateur républicain de l'Alabama, ne pourra pas compter sur la bienveillance de ses anciens collègues.
Toujours aux États-Unis, le candidat républicain au Congrès, qui avait fait une prise de catch en journaliste la veille de son élection, a été condamné hier à 40 heures de service d'intérêt général, 20 heures d'atelier de gestion de la colère et une amende. Greg Gianforte, un homme d'affaires du Montana de 56 ans, avait plaidé coupable et présenté ses excuses au reporter Ben Jacobs du quotidien The Guardian pour cette altercation qui avait fait immédiatement le tour du monde grâce à un enregistrement audio accablant.
En Russie, plus de 1500 partisans de l'opposant Alexei Navalny ont été interpellés hier, selon l'ONG spécialisée OVD Info. Ils prenaient part à des manifestations anticorruption organisées dans tout le pays contre le président Vladimir Poutine et ses alliés. Monsieur Navalny lui-même a été condamné à une peine de prison de 30 jours pour avoir tenu une manifestation non autorisée à Moscou. La Maison-Blanche a condamné ces arrestations de manifestants pacifiques et réclamé leur libération immédiate.
En Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May joue son va-tout ce mardi lors de sa rencontre avec Arlene Foster, la dirigeante du parti nord-irlandais DUP, dont le soutien est indispensable pour qu'elle puisse gouverner tant bien que mal. Le parti conservateur dispose de 318 députés au Parlement. Les 10 élus du DUP lui permettraient d'atteindre la barre des 326 sièges requis pour atteindre la majorité absolue. Grâce aux inquiétudes sur cette éventuelle alliance, Madame May a assuré que le DUP n'aurait aucune influence sur la politique concernant le mariage gay et l'avortement notamment, auquel ce parti irlandais est farouchement opposé.
Le groupe État islamique a appelé ses fidèles à travers le monde à continuer leurs attaques pendant le mois sacré du Ramadan. Cet enregistrement effrayant d'un porte-parole djihadiste réalisé par Al-Furqan, un groupe de production et de propagande de l'organisation, a été diffusé par des comptes djihadistes sur les réseaux sociaux. Ciblé entre autres dans ce message, outre l'Europe, les États-Unis, la Russie, l'Australie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et les Philippines. Pour rappel, le groupe État islamique a revendiqué le double attentat terroriste qui a fait au moins 12 morts la semaine dernière à Téhéran, en Iran. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
Mieux identifier les mesures, surmonter les obstacles à une croissance durable et créer des flux d'investissement plus importants. C'est ainsi que le président guinéen Alpha Condé, à la tête de l'Union africaine, a décrit le sommet du G20 sur l'Afrique à Berlin. Objectif, trouver un nouveau partenariat économique avec l'Afrique. Mais pour le président rwandais Paul Kagame, si l'aide traditionnelle est utile, elle ne va jamais être suffisante pour un développement durable. Et pour cela, le secteur privé est absolument essentiel. En Tanzanie, une commission d'enquête a évalué à 188 000 milliards de shillings tanzaniens les pertes fiscales liées aux fraudes autour de l'exploitation minière depuis 1998, dont la non-déclaration de revenus. Les pertes sont attribuées notamment à des groupes étrangers, dont le géant minier Acacia Mining, également accusé d'opérer sans enregistrement dans le pays depuis plusieurs années, des accusations que la compagnie a rejetées. C'est fait, le président par intérim du Nigeria, Yemi Osinbajo, a signé la loi sur le budget 2017 hier. Le président Muhammadu Buhari, qui a prolongé son nouveau séjour médical à Londres, a déclaré qu'il était dans l'intérêt du pays d'entériner le texte. Il s'agit d'un budget record de 24 milliards de dollars pour tirer la plus grande économie d'Afrique de la récession née de la chute du prix du pétrole. Il prévoit de gros investissements dans les infrastructures, dont les routes et les secteurs ferroviaire et aéroportuaire.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Alors Idrissa, Golden State est-il au paradis ce matin ?
Paradis, je ne sais pas Nicolas, mais ils sont au nu après avoir décroché la 4e victoire décisive lundi soir dans leur salle, 129-120, s'imposant ainsi 4-1. Ils comptent désormais 5 titres NBA à leur palmarès et ont fini les playoffs 2017 avec un bilan impressionnant de 16 victoires pour une seule défaite. Stephen Curry et ses coéquipiers ont surtout pris leur revanche sur Cleveland qui les avait renversés 4-3 dans la finale 2016 après avoir été menés 3-1. Un dernier mot, je crois que le mérite de ce titre revient en grande partie à Kevin Durant qui, après plusieurs années à Oklahoma City, avait quitté cette équipe pour Golden State afin d'avoir une chance de remporter enfin un championnat. Kevin, au demeurant, a été nommé MVP, c'est-à-dire meilleur joueur de cette finale 2017. Football maintenant, le corps de Cher Tioté, rapatrié jeudi en Côte d'Ivoire.
Le rapatriement du corps du joueur décédé soudainement le 5 juin dernier en Chine aura lieu finalement ce jeudi, c'est ce qu'indique la Fédération ivoirienne de football. Un hommage devrait alors être organisé pour le joueur vainqueur de la CAN 2015 et finaliste de l'édition 2012. Les éléphants et l'encadrement technique de retour de Boaké après le match perdu contre la Guinée ont présenté hier leurs condoléances à la famille du défunt à Abidjan. Cheikh Tioté, membre de l'équipe nationale ivoirienne durant les mondiaux 2010 et 2014, a effectué la plus grande partie de sa carrière à Newcastle. Âgé de 30 ans, le milieu de terrain, souvenez-vous, est décédé lors d'une séance d'entraînement avec son club de D2 chinoise.
L'Iran est devenu la 3e sélection assurée de disputer la phase finale de la Coupe du Monde 2018.
Oui, après la Russie, pays organisateur et le Brésil, l'Iran est qualifié grâce à sa victoire contre l'Ouzbékistan hier. 2-0, c'était à Téhéran lors de la 8e journée des éliminatoires de la zone Asie. Ces 3 points lui garantissent de terminer à l'une des 2 premières places du groupe A, synonyme de billet direct pour la Coupe du Monde 2018. C'est la 5e fois que la team Méli se qualifie pour une phase finale du Mondial.
Tennis, ça bouge au classement mondial après Roland-Garros.
Une décima en poche à Roland-Garros, Rafael Nadal a atteint la 2e place du classement ATP selon le classement publié hier. Nadal fait du coup reculer de 2 rangs le Serbe Novak Djokovic 4e, éliminé en quart de finale du tournoi parisien. Nadal a réalisé un véritable exploit sur le court Philippe Chatrier, aucun autre joueur n'ayant atteint un nombre aussi grand de victoires dans un même tournoi du Grand Chelem. La Reconquista est en marche pour le trentenaire après 3 années difficiles. Pour sa part, Djokovic n'est jamais tombé aussi bas depuis 8 ans dans le classement ATP. Du côté des dames, la jeune lettonne Yelena Ostapenko, grâce à sa victoire inattendue samedi en finale du tournoi féminin de Roland-Garros, a bondi de 35 places. Elle est désormais 12e au classement WTA. C'est la première fois qu'elle rentre dans le top 20 mondial. La Roumaine Simona Halep, adversaire malheureuse de cette finale, n'a pas tout perdu. Puisqu'elle gagne 2 places, elle est désormais 2e joueuse mondiale. Quant à Serena Williams, enceinte, elle est désormais 4e au classement WTA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'évasion de la prison de Beni en République démocratique du Congo. Sur 967 prisonniers, 930 se sont échappés de cette prison attaquée dimanche après-midi. Cet incident crée la panique au sein de la population de Beni. Solange Niamoulissa a joint Nikèze Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
Dimanche à 15h, la prison de Beni, qui est un peu à l'écart de la ville, a été attaquée par un groupe de bandits lourdement armés. Ils ont réussi à faire sortir 930 personnes sur les 967 qui étaient locataires. Il y a eu 11 morts, dont 8 militaires, un gardien et puis 2 prisonniers. Cette histoire donne la chair de poule à la population.
Est-ce qu'il y a des soupçons sur les gens qui ont pu mener cette attaque?
Officiellement, on n'identifie pas les assaillants, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une coalition des islamistes ADF plus les Maïmaï. Il y avait autant d'ADF gardés en prison qui étaient en instance de jugement. Et il y a des Maïmaï aussi, donc ils sont venus pour libérer les leurs et ils l'ont fait, ils sont repartis.
Quel sera l'effet sur tout justement l'insécurité au Nord Kivu, précisément à Beni?
C'est un problème réel parce que on est dans l'accalmie pendant presque 7-8 mois, depuis qu'il y a les procès, depuis qu'il y a les opérations militaires Sokola 1. Aujourd'hui, le vrai problème va se poser parce que les cultivateurs ne sauront pas aller au champ. Et puis tous les axes routiers, notamment Beni Kasindi pour vers la frontière, Beni Butembo, Beni Lubero, risquent d'être des axes de mort parce que ces gens sont dans la nature et à tout moment, ils auront besoin de manger, ils pourront attaquer des véhicules, ils pourront attaquer les hommes. Donc, c'est un problème sérieux qui va se poser dans la région.
Est-ce que Beni a une prison qui peut abriter plus de 900 personnes?
Non, la prison a été construite en 2005-2006. Avec l'appui des Belges, c'était pour 250 personnes. Mais vous comprenez que les prisons en RDC ne respectent pas leur première capacité d'accueil. Aujourd'hui, ça a été 4 à 5 fois le nombre prévu pour cette prison, dont les conditions n'étaient pas les meilleures. C'était, je peux me permettre, c'était un mouroir. Bon, dès que l'occasion s'est présentée, ils sont tous partis.
Après cette évasion, quelle est la réaction du gouvernement?
À partir de Goma, le gouverneur de province a tenu une réunion de sécurité. Il a décrété le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire de Beni et de la ville de Butembo de 18h30 à 6h du matin pour permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre l'ennemi et de récupérer les fouillards. Bon, jusque-là, ça n'a pas encore donné d'effet. Bon, il y a à peine 6 à 8 qui sont retournés en prison, mais pour le reste, peut-être dans les jours qui suivent, l'armée pourra mettre la main sur le fouillard, mais ce n'est pas facile parce que c'est une région où il y a des montagnes, il y a le parc national de Virunga et le fief même des islamistes ADF. Dans l'entretemps, le maire de la ville demande aux prisonniers de retourner. Il demande aussi à la population de signaler tout cas suspect. C'est une grande panique dans la ville parce que la crainte est grande que ces gens reprennent encore des massacres. Et aussi, vous voyez que le procès est même amputé parce que ce sont les gens qui comparaissaient qui sont partis.
Nikèze Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a tranché sur les recours portés par les anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré qui sont actuellement jugés devant la Haute Cour de justice. Le Conseil a jugé que la loi qui régit cette haute cour viole le principe d'égalité devant la justice et qu'elle est aussi contraire à la Constitution parce qu'elle ne prévoit pas de recours. Il s'agit donc d'une décision qui va dans le sens souhaité par les avocats de ces anciens ministres. Notre correspondant Zoumana Wonogo a recueilli les réactions de l'avocat de la défense et de celui des victimes de l'insurrection. Écoutons Zoumana.
Sur la table du Conseil constitutionnel, il y avait au moins 7 exceptions soulevées. Le Conseil a retenu 4 et les 3 autres ont été déclarées soit irrécevables ou simplement rejetées. Quelle lecture fait Maître Mamadou Traoré, ancien bâtonnier et avocat de l'ex-ministre Alain Traoré, des décisions prises par le Conseil constitutionnel?
De quoi s'agit-il? Du procès équitable. Or, précisément, les dispositions fondatrices de la Haute Cour de justice au Burkina Faso sont contraire à ce que l'accusé puisse faire appel à la décision de condamnation. En cela, les justiciables de la Haute Cour, les anciens ministres, ont eu raison. La juridiction devant laquelle ils comparaissent ne respecte pas la constitution du Burkina et ne respecte pas les standards internationaux.
Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a dit précisément sur le cas des victimes? Suivons leur avocat, Maître Hervé Guy Cam.
Le Conseil a dit 2 choses. La première des choses, le Conseil a dit le fait que l'article 25 de la loi dispose que la constitution de partie civile est irrécevable n'est pas une violation de la constitution. Mais, dans le même temps, dans ses considérants, le Conseil a dit aussi que les victimes ont le droit d'être partie au procès qui juge les auteurs des infractions. Donc, nous comprenons que nous pouvons être partie au procès, mais nous ne pouvons pas demander des dommages-intérêts. Pour demander des dommages-intérêts, nous devons aller devant les juridictions ordinaires. Mais ça nous convient dans la mesure où nous, ce que nous voulions, c'était quand même de participer au procès pour faire éclater la vérité, de ne pas laisser les juges face tout simplement aux personnes poursuivies, mais de faire intervenir l'autre partie pour que, justement, il y ait la balance.
À la lumière de ces décisions, verra-t-on de sitôt le procès des anciens ministres de Blaise Compaoré? Avons-nous demandé à Maître Mamadou Traoré?
Non, il ne peut pas avoir procès dans ces conditions. Maintenant, que va faire le gouvernement face à cela? Nous attendons de voir, d'une part, le Conseil constitutionnel dit que cette haute cour, la loi en tout cas qui organise son fonctionnement, contient des dispositions inconstitutionnelles. D'autre part, la réforme de la Constitution envisage de supprimer la Haute Cour de justice. Moi, je crois qu'en bonne politique judiciaire et législative, il faut mettre une croix sur la Haute Cour de justice et voir comment, par les mécanismes du droit commun, on peut trouver une solution à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Deux journalistes maliens, auteurs d'une enquête sur des comptes suisses de membres de la haute hiérarchie de l'Église au Mali, se disent aujourd'hui menacés. Ils avaient fait des révélations portant sur près de 7 milliards de francs CFA après des enquêtes fondées sur des documents de banques suisses piratées, une affaire dénommée SwissLeaks. Bagassi Koura a joint à Bamako David Dambélé, journaliste à la Dépêche du Mali.
Il s'agit de l'ouverture en Suisse en 2002 de 7 comptes chez HSBC et donc un fait signé Conférence épiscopale du Mali et les documents auxquels on a eu accès sont issus des SwissLeaks. Voilà, et nous travaillons sur ce sujet, cette thématique depuis longtemps. Dans les documents, on voit des traces de rencontres entre les agents de la banque et le clergé malien. Les agents de la banque qui se sont très souvent déplacés à Bamako pour rencontrer Monseigneur Zerbo et autres. Ces rencontres ont eu lieu en 2005 et en 2005, le portefeuille s'élevait à 12 millions d'euros sur ces comptes-là, ce qui équivaut à 7 milliards de nos francs.
Alors, il s'agit là de grosses sommes. D'où viendrait cet argent alors?
Bon, notre enquête avait pour objectif de savoir la provenance de ces ressources parce que les documents ne nous le disent pas. Et ils n'ont pas coopéré, à la limite, on nous a mis à la porte, quoi.
Donc c'est depuis la publication de cet article que vous recevez les menaces?
Voilà, depuis la publication, effectivement. Nous avons très souvent des appels via ces numéros masqués, vous voyez, et ils nous appellent tous les deux en même temps, et à des heures pas possibles, très tardives souvent.
Mais on ne peut pas dire que c'est le clergé qui vous menace?
Ben, non, on ne peut pas l'affirmer de façon très ouverte, mais c'est nous qui avons fait les enquêtes et il y a des indices probants dans ce sens. C'est pas le clergé, mais je dis encore une fois que c'est vraiment des gens qui bénéficient d'une manière ou d'une autre des subventions ou de projets financés par... Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, les réactions sont clairement visibles, hein. Parce que moi, je suis chrétien, je sais très souvent qui dit quoi là-dessus et dans le milieu, je connais pas mal de gens également.
David Dambélé, journaliste à la Dépêche du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Jeudi dernier, le pape a lancé un ultimatum de 30 jours aux prêtres du diocèse nigérian d'Ahiara, dans le sud-est, qui, pour des raisons ethniques, refusent depuis plus de 4 ans leur évêque. Ceux qui ne le feront pas seront déchus de leur office, prévient le Saint-Siège. Morgane Guiriec a joint Albert Mianzoukouta, notre confrère de Radio Vatican à Rome.
C'est un problème un peu récurrent. Il n'est pas spécifiquement africain, mais c'est un problème lorsque, bon, des prêtres qui sont appelés à travailler sous l'autorité d'un évêque, ben, trouvent que celui-ci n'est pas le bon, celui qui correspond à leurs attentes. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'un problème ethnique. Donc, des prêtres d'une autre ethnie s'opposant à ce qu'un Igbo devienne donc évêque de Ahiara.
Alors, du coup, si ces prêtres ne se soumettent pas à cette nomination, il risque d'être déchu.
Alors oui, ça par contre c'est une chose assez inhabituelle et qui a frappé les esprits parce que le pape a tapé du poing sur la table et plutôt fermement. La fronde de ces prêtres dure depuis 2012. Hein. C'est sous le prédécesseur du pape actuel, le pape Benoît XVI, que l'évêque a été nommé et que ces prêtres donc qui sont appelés à être ses adjoints dans la pastorale, eh bien lui contestent la législation de venir s'installer donc dans ce diocèse. Alors le pape, en recevant une délégation de Ahiara la semaine passée, a été très clair. Il a sommé les prêtres, un, de lui faire parvenir une lettre dans laquelle ils réaffirment leur obédience et deux, d'accepter ce que le Saint-Père a décidé depuis 2012 et trois, s'ils ne le font pas, et cela avant le 9 juillet, eh bien, ils seront effectivement déchus. C'est une décision assez rare.
Que faut-il comprendre? Les prêtres n'ont pas leur mot à dire lorsqu'il s'agit de l'évêque de leur diocèse.
Il y a un mécanisme qui fait que les prêtres ont leur mot à dire dans le choix, puisque c'est eux qui désignent les trois qui peuvent éventuellement faire l'affaire. Mais ici, malgré ce mécanisme, la désignation a été décidée par le pape Benoît XVI et les prêtres continuent de contester. L'affaire est grave. Le pape souligne d'ailleurs le danger qu'il y a à apporter la division et le discrédit au sein de l'Église, d'où donc la nécessité de trancher net par cette mesure spectaculaire.
Notre confrère de Radio Vatican à Rome, Albert Mianzoukouta.
Dans Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux des services d'urgence en Afrique. Du Sénégal au Cameroun, les problèmes se ressemblent. Taux de mortalité, manque de matériel et prise en charge des services d'urgence des hôpitaux en ville ou en province. Pourquoi tant de mortalité? À quoi ressemblent les formations des urgentistes? Quelle politique de santé pour gérer les urgences? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.